Elle fut l'une des grandes pionnières de la recherche en astronomie et en cosmologie au mi-temps du XXe siècle. Elle fut aussi la première femme autorisée à utiliser le grand télescope du Mont Palomar aux États-Unis. De l'étude du mouvement des galaxies à la compréhension de leur distribution ou encore de leur fusion, elle a posé, à partir des années 1950, des jalons déterminants pour la compréhension de la structure de notre univers, mais aussi de sa part cachée, la matière noire. Celle qui est restée jusqu'à sa mort en 2016 privée d'un prix Nobel de physique amplement mérité, n'en demeure pas moins l'une des plus grandes astrophysiciennes de son temps et nous lui rendons hommage aujourd'hui dans la méthode scientifique. Nous parlons de Vera Rubin. Vera Rubin, une lumière dans l'obscurité, c'est une vie consacrée aux énigmes de l'univers que nous vous proposons de retracer aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de la vie et de l'œuvre scientifique de Vera Rubin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Combes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et vous êtes également la toute récente lauréate de la médaille d'or du CNRS. On vous recevait il y a peu à ce micro pour célébrer cette excellente nouvelle. Avec nous également aujourd'hui, Yael Nazé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne au FNRS, l'équivalent belge du CNRS, à l'Université de Liège. Alors avant de retracer cette histoire passionnante de la vie de Vera Rubin, nous retrouvons comme chaque jour la grande observatrice de l'univers scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Antoine.
Et on commence ce journal avec trois études parues hier dans la revue Nature avec la première détection dans notre propre galaxie d'un sursaut radio rapide.
Et les sursauts radio rapides, ou les FRB pour Fast Radio Bursts, sont de grands mystères cosmiques. Ce sont des sursauts d'ondes radio qui libèrent en quelques millisecondes autant d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Depuis leur découverte en 2007, ces éruptions restent inexplicables. Jusqu'à présent, aucun sursaut radio rapide n'avait été repéré dans notre Voie lactée. Ils proviennent principalement de galaxies très lointaines. Et puis surtout, nous n'en avons jamais trouvé la source. En avril dernier, une collaboration internationale en a détecté un à seulement 30 000 années-lumière de nous. FRB 200428. Grâce aux observations de différents télescopes, spatiaux et terrestres, on sait que cette rafale provient d'un magnétar, une jeune étoile à neutrons au champ magnétique intense. Le magnétar, c'était le candidat de premier plan pour expliquer ce phénomène. En voici donc enfin une preuve. Mais comment un magnétar produit un sursaut radio rapide? Voici un nouveau mystère.
Et comme chaque jour, toutes les études sont à retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur le site franceculture.fr. Et on passe tout de suite au bref. Face à l'épidémie de coronavirus, le Danemark va abattre tous ses élevages de visons.
De la famille des belettes, le virus aurait muté, qu'il aurait infecté 12 personnes et qu'il ne réagit pas autant aux anticorps que le virus normal. Pour éviter que cette souche ne se répande et pour éviter qu'elle menace l'efficacité d'un vaccin, 17 millions de visons vont être abattus. Alors, excepté ces déclarations gouvernementales, nous n'avons pas plus d'informations. On attend donc plus de détails et surtout des études à ce sujet.
C'est officiel. Depuis hier, les États-Unis ne font plus partie de l'accord de Paris.
Signé par 196 pays, ratifié par 188, les États-Unis sont le seul pays à être sorti de l'accord de Paris. Un accord qui repose sur l'engagement volontaire de ses signataires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Le pays est pourtant le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre après la Chine. Cependant, tout dépendra du résultat des élections présidentielles. Joe Biden a promis que s'il emportait les élections, les États-Unis rejoindraient l'accord au plus vite, soit à la fin février 2021.
Et enfin, selon une étude parue hier dans Science Advances, la chasse n'était pas le privilège des hommes dans les premières populations de chasseurs-cueilleurs des Amériques.
Et cette équipe internationale s'appuie sur des fouilles récentes ainsi que sur une méta-analyse d'études parues à ce sujet. De l'Alaska à l'Argentine, entre 8700 et 9000 ans, sur des sites funéraires, de nombreux squelettes féminins ont été retrouvés enterrés avec des boîtes à outils de chasse. Alors déjà, il s'agit bien d'outils de chasse, hein, et non pas d'ustensiles de cuisine. Et ensuite, les archéologues estiment qu'environ 50% des chasseurs dans ces sociétés étaient des chasseuses. Dans les archives fossiles, hein, on ne trouve pas de traces de répartition genrée du travail. Au contraire, à l'instar des hommes, les femmes étaient aussi des chasseuses de gros gibier.
Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Ma vie a été un voyage intéressant. Je suis devenu astronome parce que je ne pouvais pas imaginer vivre sur Terre et ne pas essayer de comprendre comment fonctionne l'univers. Voilà comment l'astronome américaine Vera Rubin introduisait en 2011 son autobiographie intitulée « An Interesting Voyage ». Celle qui est aujourd'hui reconnue par la communauté des astronomes comme une authentique pionnière et dont les travaux ont posé des jalons importants dans l'évolution de sa discipline, a eu à surmonter, je le disais en introduction, beaucoup d'obstacles, à commencer par le scepticisme d'une partie de sa communauté scientifique, essentiellement masculine, qui ne voyait pas d'un très bon œil cette femme aux idées nouvelles. Alors avant de parcourir avec nos invités Françoise Combe et Yael Nazé cette existence consacrée à la compréhension des grandes dynamiques de l'univers, j'aimerais qu'on écoute la voix de Vera Rubin, c'était en 2011 à Washington, devant les étudiants de l'American University.
I study the universe, and that's a lot.
J'étudie l'univers, et c'est déjà pas mal. Je l'étudie depuis longtemps, et je suis bien, bien plus vieille que vous. Je pensais étudier une toute petite partie de cet univers. Mais ce n'est pas un travail nécessaire. Vous pouvez avoir une vie tout à fait merveilleuse sans avoir la moindre idée de ce que peuvent montrer mes travaux dans le détail. D'ailleurs, certains d'entre eux sont probablement faux. Mais on fait de son mieux. Mais ce dont je voulais vraiment vous parler, c'est de l'an 3000. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir apprendre grâce aux télescopes et aux personnes qui s'en serviront en l'an 3000 ? Mon hypothèse, c'est qu'il y a bien, bien plus d'univers que celui que nous considérons être comme le nôtre. Quand nous disons « notre univers », nous voulons dire par là tout ce que nous pouvons voir, y compris les limites de ce qu'il est possible de voir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres univers dans ce monde. Je suis prête à parier de l'argent, mais malheureusement, je ne serai plus là pour en tirer les gains. Je suis prête à parier qu'il y a beaucoup d'autres univers, dont certains sont plus vieux que nous et d'autres plus jeunes. Et je pense que d'ici l'an 3000, les plus avancés d'entre nous sauront faire des choses que nous ne savons pas faire. Par exemple, ils auront peut-être la capacité de nous rendre visite à nous, même s'ils ne peuvent pas nous parler, ou bien même s'ils n'utilisent pas le même langage que nous, ou bien même s'ils ne nous ressemblent pas.
Voilà la voix de Vera Rubin, c'était en 2011, une petite réaction à cette archive que Olivier Bétard, le réalisateur de l'émission, nous a concoctée. Françoise Combe, vous qui avez connu Vera Rubin, vous qui l'avez côtoyée, est-ce que vous retrouvez là un petit peu une synthèse de son esprit ouvert, cocasse ?
Oui, c'est très émouvant d'entendre sa voix encore, et je pense qu'en effet, elle se projetait en l'an 3000, donc ce qui est, ça fait partie de son esprit très aventureux et très persévérant aussi. Elle était très, dans ses travaux, elle osait tout, elle était très ambitieuse, elle osait tout.
On va avoir l'occasion d'évoquer cette audace tout au long de cette heure d'émission. Yael Nazé, une petite réaction à cette archive.
Ah non, mais c'est très émouvant, hein. je suis tout à fait d'accord, c'est assez amusant, hein, d'entendre ça, et puis d'entendre aussi, enfin moi je trouve ça aussi très intéressant de voir la modestie, ou quand elle dit, ben voilà, mes travaux, ben il y en a qui sont faux, et puis on peut vivre très bien, vous pouvez vivre très bien sans jamais les connaître, c'est le genre de choses qu'on entend très rarement venant de scientifiques éminents, peut-être plus venant de femmes scientifiques éminentes. Voilà.
Alors là, on était en 2011, on va remonter à la genèse de cette grande scientifique Vera Rubin. Françoise Combe, j'aimerais, avant de rentrer dans le détail de ses travaux de recherche en astronomie, comprendre un petit peu dans quel contexte elle est née en 1928 et voilà, un petit peu ce background familial dans lequel elle a évolué.
Oui, alors déjà, son père était émigré, il a été émigré très jeune, donc c'est la première génération après l'émigration. Et très jeune, elle a observé le ciel, elle avait un télescope à 10 ans, d'après ce qu'on nous dit. Elle était dans une maison où, de sa chambre, on pouvait regarder le ciel, donc toutes les soirs, elle regardait les étoiles. Elle disait que c'était le principal paysages qu'elle pouvait regarder pendant des heures et des heures. Et très, à plusieurs périodes de sa vie, à 10 ans, elle avait un petit télescope. Et ensuite, elle est allée à l'école, elle avait aussi encore un télescope un peu plus grand, puis un peu plus grand. Et on voit qu'elle était passionnée par l'astronomie déjà. Hein. C'est formidable de voir sa vocation. Et elle a été ensuite... D'abord, elle avait une école qui n'était pas très favorable. Hein. Elle avait un professeur de physique
oui.
Qui ne s'adressait pas aux filles du tout, et qui l'avait même conseillé que lorsqu'elle prendrait une voie dans sa carrière, il valait mieux qu'elle ne fasse pas de sciences.
Oui, ce professeur de physique qui, au moment où elle lui annonce, on prend un petit peu d'avance, mais au moment où elle lui annonce qu'elle va aller à l'université, lui dit « ça devrait bien se passer pour vous dès l'instant que vous vous tenez éloigné des sciences ». Bon, c'était raté.
Voilà. Et justement, avec cette expérience-là, elle a pris le collège privé Vassar Collège, qui était un collège féminin uniquement pour les femmes. Elle n'aurait eu plus ce problème d'affronter ceci. Donc il y avait en effet des enseignements féminins, etc. Ça a été féminin jusqu'en 1969. Ensuite, aujourd'hui, c'est mixte. C'est un célèbre collège on lui a demandé de fusionner avec Yale, qui est très connus aussi, mais ils ont préféré rester indépendants, et ils sont très très cotés. Hein. C'est un Vassar Collège et quelque chose de très coté aujourd'hui encore.
Oui, Yael Nazet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi Vera Rubin a choisi ce Vassar Collège plus qu'un autre ?
Alors, on vient de le dire, hein, y a déjà le fait d'être un petit peu soutenu, parce que c'est vrai que, à part ses parents qui eux, lui, vraiment l'ont soutenu, l'ont encouragé, son père a bricolé les télescopes avec elle. Bon, à part ça, ses profs ont été quand même pas du tout, je vais dire, à la soutenir dans son intérêt des sciences. Et donc là, ce qui est assez amusant, c'est que au Vassar College, non seulement c'est un collège féminin, mais en plus, c'est en fait un collège où en fait la première astronome américaine, Maria Mitchell, celle qui avait découvert une comète, a enseigné. Et donc en fait c'est assez amusant, c'est un collège où il y a de l'astronomie parce qu'on considère que c'est un peu, je veux dire, quelque chose de très féminin, quoi. Et donc évidemment, pour elle c'est parfait, quoi, d'avoir de l'astronomie comme ça, ça tombe très très bien.
Françoise Combes, est-ce qu'on peut dire que c'est au Vassar College que commence vraiment la pratique d'astronome de Vera Rubin ? On parlait tout à l'heure de ses télescopes bricolés, mais est-ce que c'est vraiment là que démarre sa carrière ?
Oui, elle est rentrée donc à 17 ans à ce Vassar College. Elle avait déjà un télescope de 13 cm et ensuite elle a utilisé le télescope de 40 cm qu'il y avait pour les étudiants. Donc en effet, comme le dit Yael, c'était une université en fait très portée vers l'astronomie. Il y avait déjà des télescopes destinés aux étudiants et elle était une des utilisatrices la plus assidue, bien sûr. Donc elle a vraiment fait de l'astronomie à cet âge-là, à 17 ans. Elle avait déjà la vocation très prononcée.
Ouais, et puis au bout de 3 mois, elle était déjà l'assistante de sa professeure d'astronomie. Donc elle montrait quand même quelques ambitions dans ce domaine. En 1947, elle se marie avec un certain Robert Rubin et elle le rejoint à Cornell où elle s'inscrit immédiatement au cours d'un certain Richard Feynman, le grand physicien américain. Quelle a été l'influence de Feynman sur Vera Rubin, Yael Nazet?
Alors là, par contre, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas cette information-là.
Françoise Combes, peut-être, sur cette question.
Oui, je pense que Feynman était très ouvert, hein, justement, il était très ouvert, il n'était pas du tout comme le professeur de physique, la mauvaise expérience qu'elle avait lorsqu'elle était à l'école. Feynman était très ouvert, il était le professeur de son mari, Robert Rubin, c'est pour ça que d'ailleurs, elle avait demandé à son fiancé, avant de se marier, où est-ce qu'il voulait aller, avec quel professeur, etc. Mm-hmm. Et en effet, sachant que Feynman était le professeur de Robert Rubin, elle s'est mariée avec lui. Elle avait déjà une intention. Ça a favorisé, du moins. Et donc, elle avait côtoyé à Cornell, en effet, Feynman, mais aussi, elle a ensuite côtoyé Gamow.
Mm-hmm. Aussi une énorme son futur directeur de thèse.
Son futur directeur de thèse. Et on est vraiment assez fascinés par toutes ces personnalités qu'elle a contactées dès son premier travaux.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
Excusez-nous Françoise, quand vous êtes pris une virgule dans le nez, comme on dit dans le jargon, à 16h15 dans la méthode scientifique, nous poursuivons notre cheminement dans la vie de Vera Rubin, grande pionnière américaine de l'astronomie et de la cosmologie, en compagnie de vous Françoise Combes et de vous Yael Nazé. Alors pour bien comprendre, on va avancer un petit peu dans les travaux très importants de Vera Rubin et notamment son premier mémoire en 1950 sur la dynamique des galaxies. J'aimerais qu'on fasse un très très court état des lieux de ce qu'on savait au milieu du siècle dernier sur ces grands thèmes qui vont intéresser l'astronome Vera Rubin au fil de sa carrière. Alors Françoise Combes, pour ce qui est des galaxies, Edwin Hubble avait établi en 1925 qu'il existait des galaxies extérieures à notre Voie lactée. Bon, pour ce qui est de l'expansion de l'univers maintenant, qu'est-ce qu'on sait au début des années 50, au moment où Vera Rubin entame la rédaction de son mémoire?
Alors l'expansion de l'univers, on l'avait déjà faite en 1925 justement, enfin, lorsque Hubble a détecté les céphéides qui étaient des indicateurs de distance dans Andromède dans les galaxies proches. D'abord, on a compris qu'il y avait des galaxies à l'extérieur de la Voie lactée. Au début, on pensait que tout l'univers c'était la Voie lactée. Donc déjà l'existence des galaxies. Et ensuite, comme on avait déjà mesuré des vitesses en expansion de milliers de kilomètres par seconde, elles étaient toutes décalées vers le rouge en lumière. Donc on avait déjà l'expansion de l'univers. Et c'était dans 1920, 25, 27 que Georges Lemaître avait vraiment compris qu'il s'agissait non pas d'un effet Doppler seulement, mais d'une expansion de l'espace lui-même, que les galaxies ne bougent pas, mais il y a l'expansion de l'univers. Tout ça, on le savait en 1927. Par contre, en 1934, donc il y a la fameuse étape de Fritz Wigge, qui est l'astronome suisse qui observait en Californie, et lui, il regardait les vitesses des galaxies dans un amas de comas. Il avait détecté des vitesses énormes, des milliers de kilomètres par seconde aussi, entre les galaxies, l'amas de coma. Et en regardant la masse qu'il voyait seulement avec les galaxies, il voyait qu'il n'y avait pas assez de masse pour retenir ces galaxies qui étaient avec une très folle vitesse. Donc il avait imaginé qu'il y avait de la matière invisible qui retenait les galaxies entre elles dans l'amas de coma pour compenser toutes ces vitesses de milliers de kilomètres par seconde. Et donc c'est lui qui a parlé la première fois de matière noire. Mais curieusement, il avait des illuminations comme celle-ci, mais il ne croyait pas, par exemple, que les galaxies pouvaient avoir de la matière noire. Par exemple, regarder les vitesses de rotation dans une galaxie, à l'intérieur d'une galaxie, il pensait qu'il y avait beaucoup de viscosité et qu'on pourrait jamais déterminer la quantité de matière noire qu'il y a dans une galaxie. Et c'est là que, peu à peu, en faisant des courbes de rotation, on verra que Vera Rubin a établi en effet qu'il y avait de la matière noire dans les galaxies.
Voilà, donc là on tord un petit peu le cou à une idée reçue dans le milieu un petit peu de la vulgarisation scientifique qui fait de Vera Rubin la mère de la matière noire. C'est bien Fritz Wicke qui est le père, celui qui a créé l'expression matière sombre, voilà. Mais Vera Rubin a améliorer finalement cette perspective-là et a repris à son compte cette idée-là. Yael Nazé, en ce qui concerne un petit peu ce décor épistémologique en astronomie dans lequel évolue Vera Rubin dans les années 50, est-ce que vous voyez d'autres points à mentionner? Quel est le contexte en fait dans ces années 50?
Alors, ce qui est assez amusant finalement, c'est de se rendre compte que justement cette histoire de matière sombre, donc on a Zwicky, on a un petit peu après un résultat un peu similaire qui est trouvé dans Virgo, mais qui est ça tombe un peu dans l'oubli quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement suivi. Par contre, il y a d'autres choses qui sont fortement discutées. On est en train de discuter finalement comment ces éléments chimiques là, d'où est-ce qu'ils viennent quoi. Des gens comme Lemaître ou comme Gamow pensent qu'ils sont formés dans ces débuts de l'univers qu'on va malheureusement baptisé Big Bang, pour s'en moquer. En parallèle, on a une autre théorie qui se développe, qui est l'univers stationnaire de Hall, où on a une espèce d'expansion, mais avec une création continue de matière et pas d'événements de formation globale. Donc on a beaucoup de discussions là-dessus. Bon, on a aussi beaucoup de discussions sur la présence de différentes populations. Hein. Bon, il faut bien se rendre compte qu'en 48, c'est le moment où on va avoir l'inauguration du Palomar, donc le premier 5 mètres, hein, premier
le
télescope plus
grand
de 5
télescope
mètres.
Américain de, à l'époque.
Voilà, donc je veux dire, on est au tout début hein, de tous ces grands travaux galactiques et extragalactiques. Bon, je vais pas dire qu'on ne sait rien, c'est pas ça, mais je veux dire, tout ce qui nous paraît tout à fait normal aujourd'hui, on balbutie encore un petit peu, quoi.
Et c'est dans ce contexte qu'arrive Vera Rubin et qu'elle commence la rédaction en 1950 d'un mémoire qui aura une certaine importance. Françoise Combes, alors à quoi est consacré ce mémoire?
Alors, en effet, Gamov l'avait dit qu'il serait le directeur de la thèse, mais il n'avait pas vraiment poussé un petit peu vers un sujet particulier, mais elle avait regardé quelles étaient les vitesses des galaxies proches de la nôtre, que l'on connaissait dans la littérature, on avait regardé toutes ces vitesses. Elle avait essayé de voir si les galaxies autour de nous étaient dans un plan et tournaient un petit peu comme notre galaxie. C'était l'analogie avec la Voie lactée. On sait que la Voie lactée, toute la matière, les étoiles, le gaz, tournent autour du centre, donc comme dans un disque. Et elle s'imaginait que peut-être les galaxies extérieures tournaient autour d'un centre, une métagalaxie en quelque sorte, et essayer de voir si ces vitesses... Mais à l'époque, elle a fait le travail avec 38 galaxies, c'était ce qu'on avait à l'époque hein, seulement, et c'était pas très 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 probant en fait. On n'avait pas vraiment les indicateurs de distance qu'il fallait pour savoir où étaient ces galaxies, quelles étaient leurs vitesses, etc. Donc ça n'a pas été très probant, mais Gamov a regardé très rapidement son mémoire, il dit « ok », sans regarder les détails, et elle a fait sa thèse là-dessus.
Et il l'accepte en thèse. Alors là, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce Yael Nazeh sur ce travail de mémoire. Je crois que là, la vie de Vera Rubin a été un peu ponctuée d'épreuves et de confrontations à la misogynie de ses pairs. Et je crois que son mémoire, ses travaux étaient tellement intéressants que son directeur de mémoire a même voulu les lui piquer. Vera Rubin vient d'avoir un bébé, son directeur propose de présenter ses travaux à sa place devant la Société américaine d'astronomie, à condition que le mémoire soit signé de son nom. C'est ça?
Oui, ben c'est, enfin, je veux dire, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Hein. Mais ce qui va être quand même assez incroyable, c'est que finalement, ben, juste après son accouchement, parce que cette fameuse réunion où elle va finalement présenter elle-même ses résultats,
à Washington, ben, ouais.
elle a accouché juste quelques semaines avant, et donc elle se rend avec le bébé et tout le bazar
voiture, dans la neige, avec ses beaux-parents.
Voilà, dans la ville où il y a justement la réunion, et elle présente ses résultats, mais bon, elle a le bébé dans la voiture, donc elle rentre, elle présente et puis elle sort. Enfin, je veux dire,
et ça se passe très mal.
C'est un peu surréaliste quelque part. Et puis du coup, bah, elle va manquer un peu tous les événements intéressants parce que bon, elle va avoir tous les astronomes qui vont se liguer en se disant c'est absolument n'importe quoi. Et puis d'un autre côté, elle va avoir la presse qui va trouver ça très très amusant. Oh, on a une femme, une jeune mère comme ça qui fait tourner l'univers. Et donc,
c'est ça.
Elle fait la une du Washington Post et c'est assez rigolo quoi.
Le Washington Post titre quand même une jeune mère trouve le centre de la création à partir du mouvement des étoiles. Donc là, on perçoit toute l'ironie des années 50 à l'égard des femmes en sciences. C'est assez terrible quand même de cette réception-là.
Oui, c'est terrible. Et je crois que, bon, on le voit au début, elle va quand même changer finalement assez souvent de sujet au début, hein, jusqu'à la fin des années 60. On sent qu'elle aime pas ce genre de polémique. Elle veut qu'on parle science et le reste, bon, le fait qu'elle soit une femme, le fait qu'elle soit mère, finalement, c'est totalement annexe, c'est totalement accessoire. Et le problème, c'est que l'époque n'est pas très réceptive à ce genre de choses. Donc elle va essayer de fuir un peu la polémique et puis à un moment elle va en avoir un ras-le-bol et dit bon maintenant ça va, je m'arrête et voilà, je travaille sur mon domaine et puis tant pis quoi, si vous n'aimez pas mes résultats quelque part c'est, vous vous débrouillerez avec quoi. Et c'est assez amusant parce que finalement on voit qu'elle a pas mal de résultats extrêmement intéressants mais que qu'elle ne va pas toujours poursuivre parce que justement elle a beaucoup d'opposition. Il y en a quand même quelques-uns comme Gamov qui vont la pousser dans ce qu'elle fait. Mais bon, voilà, c'est pas la majorité et c'est clair que c'est pas facile à vivre.
Alors, Françoise, comme vous en parliez de ce fameux Gamov tout à l'heure, il récupère Vera Rubin après son mémoire, il la prend comme étudiante en thèse, c'est un travail sur la distribution des galaxies. Alors, qu'est-ce que Vera Rubin parvient à établir avec ce travail de thèse?
En fait, ce n'est pas vraiment ses travaux les plus connus, hein. C'est un travail sur les fluctuations des distributions de galaxies voisines. Et en fait, Gamov ne travaillait pas dessus non plus. Gamov, il était sur la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la formation de l'hélium, du deutérium, des éléments légers qu'il y a dans le Big Bang. Et pour lui, ça n'était pas fondamental non plus. Et ce qui est essentiel, c'est qu'elle arrive à faire son travail de thèse, elle arrive à avoir un poste permanent juste après, et qu'elle est en contact avec d'autres chercheurs très importants. En fait, elle a fait beaucoup d'écoles d'été. On faisait des écoles d'été à l'époque. Et elle est allée, par exemple, à l'école d'été aux Ouches, avec toute sa famille, en bateau. Hein, il faut se rendre compte, en bateau, pas en avion.
Traverser l'Atlantique.
Les écoles, ça dure un mois d'école. Donc, elle a pris contact avec des Européens où toute la physique des galaxies se faisait en Europe, avec Jan Oort. Blau, par exemple, des Hollandais. Il y avait aussi aux États-Unis Margaret et Geoff Burbidge, en fait, le couple Burbidge, qui observait des courbes de rotation. Et c'est avec eux, finalement, qu'elle s'est mise à faire courbes de rotation. C'est ça son principal sujet, c'est les courbes de rotation des galaxies. Margaret et Geoff Burbidge en faisaient déjà, on avait fait déjà une dizaine, une vingtaine, une trentaine même. Et ils ont montré comment, avec des raies d'émission, qui sont les raies du gaz, le gaz d'hydrogène qui est ionisé et qui se recombine en la raie de Balmer, H-alpha. Cette raie de H-alpha qui permet d'avoir la courbe de rotation des galaxies. Donc Geoffrey Burbidge j'en avais fait avec Margaret pendant un certain nombre. Justement, Margaret aussi avait des problèmes pour aller observer au télescope, vu qu'il n'y avait pas de dortoir pour les femmes, il n'y avait que des dortoirs pour les hommes, donc il y avait un problème, les mêmes que Vera Rubin avait. Et avec la suite de Burbidge, elle a commencé à faire des courbes de rotation H-alpha, et c'est là qu'elle a fait un grand catalogue de galaxies spirales de tout type, SA, SB, SC, et c'est ça qui en fait référence.
C'est-à-dire que c'est là que Vera Rubin, finalement, a une importance considérable, c'est qu'elle elle est une des premières à établir que finalement il y a plusieurs formes et plusieurs types de galaxies, et que ces formes-là, voilà.
Exactement, et même avant, on avait évidemment des courbes de rotation, on avait par exemple pour Messier 31, notre galaxie voisine, il y avait Babcock qui avait fait ça 10 ou 20 ans avant. Mais c'était tellement imprécis. Les télescopes n'étaient pas très bons, les spectros non plus. Donc on voyait des courbes qui montaient, qui descendaient, etc. C'était des vagues des montagnes russes. Et là, finalement, avec le télescope adéquat, les spectros, on a fait beaucoup de progrès. Et donc là, les courbes de rotation étaient sérieuses. On pouvait y croire. Elles étaient plates. Et c'est là que, avec plusieurs de ses collaborateurs, elle a établi il y avait des courbes qui ne descendaient pas et qu'il y avait un problème de matière invisible.
Et là, ça pose problème à qui ? À Kepler ? Rien moins qu'à Kepler, Yann Lazet. Le fait que cette courbe stellaire soit plate et ne décroisse pas.
Je veux dire, c'est un truc un peu bizarre. Quand on regarde une galaxie, voilà, Andromède, on peut la voir dans le ciel, on peut regarder des photos et tout. Généralement, on voit beaucoup d'étoiles vers le centre. C'est fort brillant. Donc, bon, typiquement, on se dit, OK, il y a beaucoup de masse au centre, il y a moins d'étoiles et donc moins de masse plus loin. Et donc, voilà, quoi. Hein, c'est un peu aussi comme dans le système solaire. Plus vous vous éloignez de la masse, plus vous allez aller lentement. Et puis là, ça diminue pas quoi la vitesse. Donc on a un gros problème. Alors ces travaux dans les années 70 vont être assez rapidement confirmés hein, par les radioastronomes qui vont aussi arriver à des courbes de rotation fort plates. Et bon, globalement, ça pose problème. Et donc là, c'est à ce moment-là en fait quand elle va voir ce truc qui ne cadre pas. Enfin, je veux dire, c'est pas possible quoi. Il manque quelque chose. Qu'elle va se souvenir. En fait, elle écrit qu'elle avait fait le fameux exercice hein, lié à la math coma de Zwicky, ben elle l'avait fait pendant ses études et elle s'en est souvenue comme ça tout d'un coup et elle s'est dit en fait c'est la même chose, c'est la même idée, on a le même problème quelque part et donc ça va faire le lien et montrer que finalement on a le même problème à plusieurs échelles et c'est vraiment ce qui a permis vraiment de remettre ce problème sur le devant de la scène parce qu'il faut bien avouer que le problème de Zwicky était certes toujours là mais à bas bruit quoi, c'était pas devenu un thème très contemporain et très sur le devant de la scène quoi.
Françoise Combes, est-ce que c'est pas là un des principaux talents de Vera Rubin d'aller justement dépoussiérer des problèmes qui avaient été mis un petit peu de côté et auxquels personne ne s'était intéressé depuis quelques décennies, quelques années ?
Oui, c'est cela. En fait, elle allait de l'avant. Elle allait ensuite à la découverte de ces courbes de rotation qui n'étaient pas bien établies, que personne ne croyait. Zwicky aussi avait des illuminations, mais il avait aussi beaucoup d'idées fausses. Hein. Mm-hmm. Il ne croyait pas au Big Bang, par exemple, alors qu'il s'était établi l'expansion de l'univers, etc. Donc les gens n'y croyaient pas forcément. Ils disaient qu'il était un peu illuminé et c'était une idée bizarre. Donc ça a mis du temps à s'imposer. Hein, quand on regarde après coup, on pense que c'était peut-être facile, ça avait déjà été découvert en 1934. Mais non. Donc ce qu'elle a fait dans les années 50-60, c'était d'établir vraiment que les courbes de rotation étaient plates et qu'il y avait un problème de matière qu'on ne voyait pas, de matière invisible. Donc elle a travaillé avec Ken Ford, qui avait des détecteurs et des tubes amplificateurs beaucoup plus sensibles que les précédents. Et elle avait des tables à mesurer. On n'avait pas toute la facilité informatique qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Hein. Elle faisait tout à la main. Et elle avait donc, c'était des collaborateurs qui avaient des instruments bien plus performant que les autres, et elle mesurait, avec des machines à mesurer à deux dimensions, les courbes de rotation, etc. Donc ça, tout ça, c'était un travail très important, et elle a persisté, elle a fait ça pendant au moins une dizaine d'années, un grand nombre de courbes de rotation, pour bien dire que c'était pas une exception d'une galaxie comme une autre, qui était bizarre, mais toutes les galaxies étaient comme ça. Donc il fallait persister et bien établir le fait, et c'est ce qu'elle a fait.
Et on va revenir juste après la pause sur les autres travaux pionniers de l'astronome Vera Rubin, à l'image de ce premier mémoire, de ses travaux de thèse, qui déjà posaient un regard nouveau sur des questions clés en astronomie. Light That Slept Inside, par le merveilleux et talentueux groupe français En Attendant Anna, puisque comme tous les jours depuis le début du confinement et à l'initiative d'Olivier Bétard, le réalisateur de la méthode scientifique, nous mettons à l'honneur la scène musicale française. Nous parlons tout au long de cette heure de la vie et des travaux scientifiques de Vera Rubin, l'une des grandes pionnières de l'astronomie du XXe siècle, en compagnie de Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et lauréate 2020 de la médaille d'or du CNRS, en compagnie accompagnée également de Yaël Nazé, astrophysicienne au FNRS à l'Université de Liège. Alors on le disait tout à l'heure, Vera Rubin, dès son mémoire en 1950, postule le fait que l'univers est structuré et que la distribution de matière n'est pas homogène. Une hypothèse qui a mal été acceptée à l'époque, mais qui aujourd'hui, et depuis même plusieurs décennies, est communément admise que de telles structures existent. Le grand mur de Sloan, découvert en 2003, ou bien le grand mur du pôle Sud, découvert cet été dernier. Céline Lozen, vous êtes allée à l'IRFU, au CEA de Saclay, pour rencontrer un des auteurs de la découverte. Bonjour Céline.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Oui, c'est une découverte qui vraiment s'inscrit dans le sillage de Vera Rubin. Ce grand mur du pôle Sud est un très grand filament de matière qui se trouve en direction du Sud. Il est assez proche de nous, à environ 500 années-lumière, mais on ne l'avait pas vu jusqu'ici car il est en fait occulté par la présence de nuages de poussière. C'est donc indirectement qu'on a pu repérer sa présence à partir d'un catalogue de milliers de vitesses de galaxies et d'amas de galaxies. Il faut savoir que c'est à partir de ces valeurs-là, de vitesses observées, et en fonction des lois de la dynamique, qu'il est possible d'en déduire l'influence d'une masse au voisinage et donc d'en inférer l'existence d'une telle structure immense qui ferait un peu plus de 4 années-lumière. Daniel Pomared, cosmologiste et co-auteur de la découverte, et qui par ailleurs avait déjà co-découvert l'Aniakea, a conçu des modélisations 3D qui montrent bien l'étendue et la forme en arc de ce grand mur du pôle Sud dans notre univers local.
Historiquement, on s'est rendu compte que l'univers était structuré en de grandes structures qu'on appelle des filaments ou des murs. Et depuis les années 80, il y a une cartographie du cosmos qui s'est enrichie, qui nous a montré qu'on était entouré par de telles grandes structures. Et alors il s'est avéré que cette cartographie était incomplète au niveau du ciel austral. Et notre collaboration, en étudiant les mouvements des galaxies dans cette direction, a constaté qu'un grand mur se trouvait dans des régions qui étaient obscurcies, car elles se situaient derrière des nuages moléculaires, de poussière qui appartiennent à notre propre galaxie. Et grâce aux effets gravitationnels qu'engendrent les grandes structures, on a pu détecter la présence d'une structure inconnue. Et comme elle est située dans la direction du pôle sud céleste, on lui a donné le nom de mur du pôle sud.
Alors, à la manière de Vera Rubin, vous avez utilisé des grands catalogues de mesures de vitesse de galaxies ou de groupes de galaxies, 18 000 galaxies, que vous
Exactement.
Avez pu faire cette découverte.
Oui. Alors, Vera Rubin a été la première à travailler sur cet aspect de la cosmologie, où elle étudiait les vitesses d'un certain nombre de galaxies. Elle avait commencé par une centaine de galaxies dans les années 50, pour voir si elle pouvait mettre en évidence une déviation par rapport à ce qu'on appelle le flot de Hubble, c'est-à-dire les vitesses de récession des galaxies dues à l'expansion héritée du Big Bang. Elle a été donc la pionnière sur un nombre limité de galaxies, une centaine. Puis historiquement, le nombre de galaxies disponibles a augmenté. Et donc, le temps passant, les catalogues augmentant en nombre de galaxies, on est arrivé à la série des catalogues Cosmic Flows. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu en déduire la présence d'une surdensité importante située à 500 millions d'années-lumière, ce qui est relativement proche, hein, puisque c'est deux fois plus proche que le grand mur de Sloan. De plus, on a pu en reconstruisant un champ de densité en trois dimensions, cartographier une forme en trois dimensions de cet objet pour se rendre compte qu'il avait la forme d'un mur très allongé, en quelque sorte un filament.
Vous parlez de la forme, là on est devant les cartographies que vous avez contribué à établir à partir de ces grands catalogues, et on voit que ce grand mur, il est arqué.
Voilà, il enlace en quelque sorte les frontières australes de notre superamas. Là, j'ai lancé sur mon ordinateur une visualisation en trois dimensions, une visualisation animée. Car non seulement on peut voir la forme de la toile cosmique, et on y voit des filaments, et ils convergent vers des régions plus denses, qui sont des nœuds de la toile cosmique.
On voit qu'il y a des courants fléchés.
Voilà, alors, donc on a superposé à cette visualisation du champ de densité une visualisation du champ de vitesse reconstruit en trois dimensions, qu'on a représenté sous la forme de lignes de courant, qui sont un petit peu le pendant de ce qu'on peut connaître avec les cartes météorologiques, quand on indique la direction des vents, la vitesse des vents. Et donc on a trois régions qui sont identifiées, une avec des courants indiqués en rouge qui correspondent à l'Aniakea, notre superamas de galaxies. Le mur du pôle sud ici que je vous indique, il est parcouru de lignes de courant.
Ils sont un peu dans le prolongement,
Exactement,
en fait. Il faut imaginer une espèce d'arborescence ou de nervure,
oui,
qui s'emboîte un peu dans la même direction.
Exactement. Donc les courants semblent suivre la direction du mur. et à un point, donc, change de direction pour signaler un effondrement sur le Superama de Chapelet.
Alors du coup, là, on se trouve devant l'infographie qui représente la projection dans le ciel de ce mur.
Voilà, donc c'est une représentation dans le système de coordonnées célestes du mur du pôle sud. Alors ce qui est frappant dans cette image, c'est la représentation de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui est représentée par cette bande grisée qui coupe en deux véritablement la carte du ciel. Et nous, notre méthodologie, en fait, basée sur l'analyse de vitesse de quelques galaxies, elle nous permet de savoir ce qui se passe dans cette région cachée. Parce qu'une structure qui s'y cache exercera une influence gravitationnelle sur les galaxies de notre catalogue, et donc on va pouvoir en déduire la présence ou l'absence de matière, et même la cartographier. Alors c'est ce qui s'est passé ici sur cette carte. Vous voyez qu'il y a des nuages qui dépassent du plan galactique, qui viennent notamment s'étaler dans la région de la constellation du Caméléon. Donc la structure est immense, en fait. Vous la voyez s'étaler sur plus de 180 degrés dans le ciel. Et en connaissant sa distance d'environ 500 millions d'années-lumière, vous pouvez en déduire qu'elle fait environ 1,4 milliard d'années-lumière. Ce que nous indique cette carte, c'est que le mur du pôle sud appartient à la sphère d'influence du Superama de Chapelet. Donc les galaxies qui s'y trouvent sont attirées vers le Superama de Chapelet. Et ça nous aide aussi à comprendre où se trouve la frontière de ces structures qu'on a découvert du mur du pôle sud.
Ce qui est intéressant avec ce travail qui est assez phénoménal, on est sur la base de 18 000 objets, mais toujours dans cet esprit qu'avait Vera Rubin avec cette dynamique des mouvements de galaxies, avec l'existence d'un attracteur, de courants, de galaxies.
Oui, tout à fait. Donc, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle ce champ de la cosmologie qui s'appelle les cosmic flows. C'est l'étude des courants cosmiques. Et donc, Vera Rubin a été la première à prendre des mesures de galaxies dans les années 50 et à rechercher des déviations par rapport à la loi de Hubble qui est archi-dominante. Donc, elle a été la première à rechercher des vitesses particulières des galaxies. Et aujourd'hui, on en est à des catalogues beaucoup plus importants obtenus par des méthodes dont Vera Rubin ne disposait pas à l'époque, dans les années 50 et même plus tard dans les années 70.
Voilà pour ce reportage à l'IRFU. Une réaction peut-être à ce reportage, Yael Nazé?
Moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que on ne s'en rend pas compte. Quand on écoute ça, on se dit oui, ok, bah d'accord, on a trouvé ça. Mais 18 000 galaxies, enfin, c'est absolument phénoménal. On est aujourd'hui avec des quantités de données absolument incomparables avec ce qu'il y avait même il y a 20 ans, quoi. Simplement, on a maintenant une vision de l'univers qui est peut-être pas complètement différente, mais forcément, et qui a énormément évolué avec les années, et ça montre que, justement, avec de nouveaux instruments, avec de gros efforts qui sont faits, ben, on a une accélération des découvertes. Quand on regarde toute l'histoire de l'astronomie sur plusieurs milliers d'années, ben, on se rend compte que finalement, les derniers 50 ans, ça a été absolument incroyable, quoi, comme découverte. Se dire, ben voilà, on est en train de voir ces filaments et comment ils s'organisent, et comment ça bouge, et wow, c'est vraiment super, quoi.
Françoise Combe, une réaction à ce reportage avec Daniel
Pommard. Je vais rentrer rire là-dessus, parce qu'en fait, quand on parle de 18 000, c'est vraiment les galaxies locales, mm-hmm. L'Aniakea, notre superma local, mais le Sloan Survey, qui est un survey d'énormément de galaxies, on en a des millions et des millions, et dont on connaît la distance, et on peut voir les filaments cosmiques bien au-delà de notre amas et superama local. L'Aniakea, c'est la structure dans laquelle nous sommes. Et donc on a déjà 3 ou 4 millions de galaxies, même on a des quasars qui remontent le temps jusqu'à Big Bang, en fait. Mmh. Donc on commence à connaître tout l'horizon observable, et je dirais même plus qu'en 2022, on va lancer le satellite Euclide, l'Agence spatiale européenne va lancer le satellite Euclide, qui va avoir un télescope spatial comme Hubble, et qui aura un très très grand champ, et le but est de détecter 12 milliards de galaxies.
Oui. Donc, on est loin.
Donc on voit que l'accélération exponentielle, je renchéris sur ce que dit elle, oui. Ce n'est pas 18 000 localement, on a déjà 3 millions aujourd'hui, et dans quelques 3 ou 4 ans, on va avoir 12 milliards de galaxies connues avec leur distance et toute leur propriétés physiques.
On est loin. On est loin de la centaine ou de la trentaine de galaxies qu'étudiait Vera Rubin dans les années 50, et on comprend là, puisque c'est Vera Rubin notre sujet du jour, notre intérêt, on comprend l'importance déterminante qu'a l'observation. Vera Rubin, elle a commencé ses travaux d'observation au début des années 60, et ça a été la première femme à pouvoir avoir accès au Mont Palomar, qui était le plus grand télescope américain à l'époque. Pourquoi il n'y avait pas de femme à l'époque?
Elle n'a pas eu accès sur le gros télescope. Elle a eu accès au Mont, mais pas sur le gros télescope, sur un petit qui est pas loin. Mais de toute façon, c'était interdit à l'époque sur tout le monde.
Pour quelle raison c'était interdit? Pour quelle raison c'était un petit peu comme le mont Athos pour les Grecs orthodoxes? Pourquoi ce mont Palomar était interdit aux femmes?
Alors, en fait, c'est assez particulier. Hein. Les quartiers des astronomes étaient appelés le monastère, ce qui n'est déjà pas extraordinairement joyeux, on va dire. Mais alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'on essayait de trouver quand même des raisons. Hein. On se disait que ça allait dissiper un peu les astronomes, parce qu'au Mont Wilson, il y avait beaucoup d'astronomes qui venaient, ou même le personnel qui était là avec sa famille, les femmes notamment, et donc bon, on avait un peu de dissipation, et elle trouvait qu'il valait mieux avoir uniquement des gens focalisés sur l'astronomie, et donc bon, pas de femmes. Et puis du coup, je veux dire, il n'y avait aucune structure, il n'y avait pas de logement spécifique pour les femmes, il n'y avait pas de toilettes, donc il n'y avait que des toilettes, à l'époque c'était unisexe, hein, les toilettes mixtes n'existaient pas, donc voilà, ça ne pouvait être que pour les hommes. Et alors un argument qui moi me fait toujours beaucoup rire, c'est qu'on disait, oui mais vous voyez, quand vous observez, l'astronome n'est jamais seul, il a un technicien de nuit qui l'accompagne, et même encore aujourd'hui, ce sont souvent des hommes qui sont techniciens de nuit. Et donc, vous imaginez que les femmes, les épouses de ces techniciens de nuit refuseraient que leur mari passe la nuit avec une autre femme. Je trouve ça absolument adorable comme excuse, quoi. Enfin, je veux dire, on trouve comme d'habitude, le bâton pour frapper son âne quand on veut, quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est que Margaret Burbidge avait un peu... on va dire un peu triché, quoi. Elle avait rempli les demandes de temps au nom de son mari, et puis elle débarquait comme assistante, n'est-ce pas, en douce, en stummelings, comme on dit chez nous. Et puis, en fait, un jour, Vera voit un de ses fameux formulaires pour remplir les demandes, et il y avait une note au crayon qui disait, finalement... Donc les femmes ne sont... Le texte était officiellement, les femmes ne peuvent pas...
être admise.
Postuler, hein, on ne peut pas accepter les demandes venant de femmes. Et généralement, il y avait un petit d'habitude qui avait été rajouté. Donc c'était... Donc il n'était pas d'habitude possible d'accepter les femmes. Alors bon, c'était un petit peu étrange, on ne sait pas qui est à l'origine de ça. Et puis elle s'est dit, bon, allons-y, postulons, quoi. Et alors c'est assez amusant parce qu'elle débarque elle arrive sur ce fameux Mont Palomar, et il fait mauvais. Vous imaginez, quoi.
Elle ne peut pas faire d'observation.
Ah ben oui, elle peut pas faire d'observation, personne ne peut faire d'observation. Et alors, bon, elle fait un peu ce que tous les astronomes font, hein, quand ils sont coincés dans un observatoire. Ils font du tourisme, ils vont de coupole en coupole voir un petit peu ce que font les autres. Et du coup, elle va voir le fameux 5 mètres. Hein, et là, on va dire que finalement, pour elle, c'était, c'était super intéressant. Mais ceux qui étaient le plus excités, c'était pas elle, quoi. C'était tous les mecs qui étaient là. Oh, une fille, c'est assez rigolo. Et la fameuse toilette unique, elle a d'ailleurs remis un petit autocollant. Vous voyez, comme on voit sur les toilettes, la petite silhouette de femme, elle a été mettre en douce, cette petite silhouette sur la fameuse porte des fameuses toilettes. Autocollant qui a disparu apparemment assez rapidement.
Étrangement. Les astronomes n'avaient pas forcément goûté la blague. Françoise Combes, quand elle arrive sur cet observatoire du Mont Palomar, quels sont les objets d'observation de Vera Rubin? Vous l'évoquiez tout à l'heure, elle fait une rencontre également déterminante à cette époque avec l'astrophysicien Ken Ford. Quels sont les objets d'observation de Vera Rubin au milieu des années 60?
Ce sont les galaxies. Hein, les galaxies. Donc elle a obtenu le premier poste pour la première femme à être employée à Carnegie, l'observatoire de Carnegie, en 65. Et c'est là qu'elle fait ses... Alors, il faut bien se remettre dans la difficulté de l'époque. Il y avait des raies d'émission de H-alpha, donc la raie de l'hydrogène, et c'était des plaques photo. Mm-hmm. Et il y avait des petites chieurs de mouche, si je peux dire, qui étaient sur les plaques photo. Il fallait développer la plaque, il fallait des machines à mesurer ces petites traces noires. Et c'est pas du tout informatisé, et donc il y avait des machines à mesurer, il fallait avoir tout un tas de précision, de travail de minutieux hein, et très attentionné pour avoir toutes les vitesses de toutes les régions ionisées, qui étaient ionisées par les étoiles jeunes de la Voie lactée hein, ou de la galaxie en question. Et donc, elle faisait ce travail et elle a fait ça pour des centaines de galaxies.
Elle s'intéressait essentiellement, enfin, à cette époque-là, elle s'intéressait au centre des galaxies, puis tout le monde a commencé à s'intéresser au centre des galaxies. Alors Vera Rubin, qui était assez habile, a commencé à ne pas avoir envie de se noyer dans la masse. Elle a décidé de prendre un peu l'air et d'aller étudier la périphérie des galaxies, et notamment la périphérie d'Andromède. Alors Yael Nazé, qu'est-ce qu'elle a découvert dans cette périphérie-là?
Alors on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, donc c'est ce problème que on voit des vitesses qui sont importantes, donc des étoiles qui vont quelque part trop vite, puisque on se dit que plus on s'éloigne de là où il y a beaucoup d'étoiles, donc où il y a beaucoup de masse, ben plus les vitesses devraient diminuer. Donc avoir des vitesses aussi élevées, c'est pas normal. Comme l'avait dit Françoise, hein, elle l'a pas fait que sur cette galaxie-là. Elle s'est dit bon, c'est quand même bizarre, faisons. Et donc elle a bien montré en le refaisant et puis en ayant les confirmations par notamment les radioastronomes que c'est effectivement on a un problème. Et voilà, c'est ce qui est assez amusant, c'est que elle a tout de suite fait le lien avec l'idée de Zwicky, et elle a ramené cette idée de matière sombre. Et là, je vais dire, quelque part, elle a un peu tapé du poing sur la table en disant, bon les gars, on a un problème, quoi.
Et pour Andromède, en fait, il y avait une curiosité. Quand on regarde au centre, et elle le dit bien aussi, il n'y avait pas beaucoup de vitesse au centre. Et vous pouvez pas le savoir, mais c'est parce qu'il y a une barre, il y a des mouvements particuliers d'Andromède qui ne sont pas dans le même plan, etc. Donc au centre, il y a une vitesse faible, contrairement à toutes les autres galaxies qui partent très vite au centre. Et puis ensuite, il y a des vitesses plus grandes au bord. Et à l'époque, hein, elle avait fait ça dans l'article de Rubin et Ford en 1970, à l'époque, il y avait le même mystère qui avait été vu par des Français, De Harving et Pellet, en 1969, qui regardaient ça aussi avec du Fabry-Perot, hein, un autre spectro particulier pour regarder les régions H2, la région de H2 ionisée. Ils avaient le même problème de courbe de rotation très très bizarre. Andromède, c'est pas un exemple très ordinaire et très générique, et donc elle s'était heurtée à ces problèmes-là. Et dans le futur aussi, elle a fait d'autres galaxies qui n'étaient pas aussi plates que cela, et notamment elle a découvert des fusions de galaxies et un phénomène particulier qui est la contre-rotation de galaxies. On a des galaxies spirales où un certain nombre d'étoiles tournent dans un sens et l'autre nombre d'étoiles tournent dans l'autre. On appelle ça contre-rotation. Et c'est simplement parce que les deux galaxies spirales ont fusionné et les rotations se sont maintenues dans le sens contraire. Donc là, tout ça, elle l'a fait, fusion de galaxies, galaxies particulières, interactions et en contre-rotation.
Yael Nazé, sur cette question de la fusion des galaxies?
Ah ben non, mais je soutiens tout à fait. Il faut bien se rendre compte que c'est quand même quelque chose de bizarre, hein, parce que on est resté longtemps, bon, avec un univers qui était finalement extrêmement calme, où il ne se passait pas grand chose. Bon, et puis là, on vous dit, bon, d'accord, il y a des fusions de galaxies, mais là vous vous rendez compte qu'avec cette contre-rotation, c'est pas une grosse galaxie avec une toute petite qui vient et qui fait un petit branle. Non, là, c'est vraiment deux grosses galaxies qui fusionnent, quoi. Donc, on commence à avoir un univers qui est beaucoup plus dynamique et on arrive vraiment vers l'astrophysique contemporaine où on se retrouve avec un univers certes plus complexe, mais beaucoup plus, quelque part, aussi intéressant parce qu'il se passe plein de choses, ça évolue, ça bouge, ça fusionne, ça explose à certains endroits. Donc voilà, c'est
on est très loin finalement de la physique parfaite de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle où les choses étaient figées dans les lois inamovibles, intouchables.
Oui, tout à fait. Je crois que quand on regarde justement là sur un siècle ou même simplement les 50 dernières années hein, du 20e siècle, c'est assez extraordinaire de voir ce changement quelque part de paradigme où on avait un univers bien tranquille où il se passait pas grand chose, les étoiles bon évoluaient à peine et puis maintenant on a vraiment quelque chose de très dynamique, parfois très violent, mais qui justement rend les choses extrêmement intéressantes, beaucoup plus qu'avant quelque part.
Et tout ça un petit peu grâce à l'évolution, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la technologie. Vera Rubin ne pouvait pas encore faire d'observations aussi précises qu'aujourd'hui. En tout cas, à la fin des années 70, c'est vraiment là que Vera Rubin est un petit peu consacrée pour ses premiers travaux qui estime finalement la présence d'une matière noire, d'un halo massif qui provoque ces dynamiques-là, Françoise Combes. Aujourd'hui, si on avance un petit peu, parce qu'il nous reste malheureusement trop peu de temps, si on doit parler un petit peu de la postérité de Vera Rubin, quelle est-elle cette postérité et sur quel grand champ de l'astronomie et de l'astrophysique elle a eu une influence?
Alors, elle a une influence sur la matière noire des galaxies, bien qu'elle ne parle là pas, justement, parce qu'elle était prudente, elle était très échaudée, elle ne parle pas dans ses papiers de matière noire, elle préfère dire qu'en effet, la distribution de la masse sera différente de la distribution de la lumière, etc. Tout le monde était très prudent, jusqu'à le fait, dans les années 80, avec les travaux de radioastronomie, ce soit vraiment bien établi qu'il y avait beaucoup de masse manquante. Mais même à l'époque, il faut attendre 85 pour penser que la matière n'était pas faite de matière ordinaire. Jusqu'en 1985, on pensait que toute cette matière invisible, c'était la matière ordinaire.
La matière baryonique.
Voilà, baryonique. Donc là, je pense, dans la suite, ensuite, en 1985, on s'est aperçu qu'il y avait de la matière non baryonique, faite de particules bizarres. Et donc, toute la suite, la postérité de Vera Rubin, c'est de détecter quelles sont ces particules de matière bizarre qui ne rentrent pas dans le modèle standard des particules, qui ne sont pas faites de protons, de neutrons, etc. Et donc la recherche de WIMPs, de particules de masse assez forte, 100 fois la masse du proton, et que l'on recherche toujours dans les tunnels, le tunnel du Mont-Blanc ou le tunnel du Grand Sasso, etc. Donc là, c'est la postérité, la recherche de matière noire non baryonique que l'on est encore en train de chercher aujourd'hui.
Donc on peut dire merci finalement à Vera Rubin pour cet immense point d'interrogation et qui concerne 90% de la masse de notre Voie lactée, 27% de la masse de l'univers total, la matière noire. Yael Nazeh, si on continue un petit peu dans cette question de la postérité, est-ce que vous voyez d'autres éléments un petit peu de la postérité de Vera Rubin sur lesquels elle a eu une influence en termes d'astronomie?
Je dirais aussi qu'il faut considérer un peu l'aspect sociologique, hein, quelque part. C'est-à-dire que, c'est bien de dire qu'il y a eu des femmes en astronomie depuis la nuit des temps, mais avoir, comme Vera Rubin, quelqu'un qui a des découvertes importantes, montre que c'est pas seulement des petites assistantes qui aident le grand astronome, des petites mains à gauche et à droite. On a vraiment des femmes qui font de magnifiques carrières, comme Madame Combes aussi, d'ailleurs, et qui font des découvertes qui montrent vraiment que les choses avancent. C'est important d'avoir aussi des figures comme ça où on peut montrer que il y a de grandes découvertes faites aussi par des femmes. Alors là, évidemment, c'est important de dire qu'il y a des hommes aussi qui ont fait des découvertes, je dis pas le contraire, mais voilà, ça permet de faire varier un peu les choses et de montrer que les découvertes peuvent venir de tout le monde et que tout simplement, l'important, quelque part, c'est d'avoir l'éducation qui va au départ avec, évidemment, du soutien, notamment du soutien familial.
Oui, les femmes ont... Dites-moi, Françoise Combes.
Oui. Je voulais vous signaler aussi, avant de partir, que un télescope, le Large Synoptic Telescope, va être appelé télescope Vera Rubin.
Donc c'est un très important. La consécration.
On a le télescope de Hubble, etc., mais là, un télescope de Vera Rubin, c'est le nom qui a été donné au LSST.
Merci beaucoup, en tout cas. À toutes les deux, on n'a pas eu assez d'une heure pour évoquer toute la riche carrière de Vera Rubin. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et puis, si vous voulez prolonger le voyage dans les confins galactiques, j'en profite pour vous rappeler la parution hier du magnifique ouvrage intitulé « L'espace ». Ce voyage vous est offert par le taulier Nicolas Martin en compagnie de l'ami Mathieu Lefrançois et c'est aux éditions EPA. Vous y retrouverez toute une merveilleuse équipe d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens qui répondent à toutes les questions que vous vous posez sur l'univers. C'est à commander, allez chercher dans votre librairie de quartier préférée avant qu'il n'y en ait plus. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, François Malordi à la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Je vous donne rendez-vous demain pour une table ronde actualité. Il sera question d'une bataille au néolithique et de ce qu'elle nous dit sur la place des femmes à cette époque. On parlera aussi de chaînons manquants et de la phylogénie dans les épidémies. À demain.